La parole des contes avec Anne Wong.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. La semaine précédente, nous invitions Léa qui est revenue, qui est encore là. Léa est là. Et la fois d'avant, nous avions vu comme conte de dragon le conte des deux frères, le plus long conte de Grimm, et qui avait d'ailleurs été fait en deux émissions. Maintenant, avec Louis Lambert, dans les contes populaires du Languedoc, nous abordons le conte intitulé « Le roi des poissons », qui fut raconté à Louis par son oncle paternel, Abel Estain en Ariège. Mais donc, dans le conte des deux frères de Grimm, c'était des frères jumeaux. Et ici, nous retrouvons les mêmes motifs en expurgé. Ce ne sont pas des jumeaux, mais des triplés. Il n'y a pas cinq animaux, le lièvre, le renard, le loup, l'ours et le lion, au service de leur maître. Et le lion d'Europe a disparu. Et la présence du lion dans les contes peut donner une idée que ces histoires nous viennent de loin. Pas forcément du temps où les paroles avaient des dents. Ça fait partie des entrées possibles que utilise le conteur pour faire entrer dans un monde un peu différent. Mais du temps où il y avait encore des lions parmi nous. Oui, au Moyen-Âge, il y en avait. Dans cette version languedocienne, pas de loup, pas d'ours, pas de lièvre, pas de lion, juste un chien. Enfin, en trois, puisque on a affaire à des triplés, donc chacun a son cheval, chacun a son chien et chacun a son dard. Le motif du couteau qui reste brillant pour indiquer que le frère est en bonne santé et qu'il ternit ou rouille pour manifester qu'il est en danger est remplacé par le dard, trois arêtes de poisson du fameux roi des poissons dans une coupelle qui rougit pour annoncer qu'un frère est en grande difficulté. Et nous trouverons aussi l'usurpateur, celui qui fait croire qu'il est le véritable héros qui a terrassé le dragon. Dans le conte des Grimm, c'était le maréchal du roi. Ici, chez Lambert, c'est un charbonnier qui prétend donc avoir tué la tête pour épouser la fille du roi. L'histoire pourrait s'arrêter là, pareil. Mais il faut que le héros reparte vers de nouvelles aventures libératrices. Une vieille sorcière va le transformer en pierre chez les frères Grimm. Et chez Lambert, c'est un peu flou. Il est juste immobilisé. Est-il devenu statue ? Il n'y aura pas la scène de l'épée tranchante dans le lit conjugal pour éviter que la princesse qui prend le frère jumeau ou triplé pour son mari. Voilà donc le roi des poissons de Louis Lambert. Une fois, il y avait un homme qui était pêcheur. Il allait chaque jour à la pêche et bien souvent ne prenait rien. Sa femme disait « Ah, tous les jours tu vas à la pêche et tu rapportes pas de poissons. Il te faudra prendre un autre métier, ou bien nous crevons de faim. » « Eh ben, tiens, femme, j'y vais pour la dernière fois. Si je prends rien, je quitterai le métier. » Le lendemain, il va à la pêche. Au premier coup de filet, il prend un gros poisson tout rouge. Le poisson lui dit
« Pêcheur, ô bon pêcheur, laisse-moi rentrer dans la rivière et tu prendras chaque jour tout le poisson que tu voudras. »
Il le laisse rentrer dans la rivière. Au premier coup de filet qu'il lance de nouveau, il amène un quintal de poissons. Il s'en retourne content à la maison. Sa femme lui dit « Comment se peut-il que depuis si longtemps t'allais à la pêche sans rien porter jamais et qu'aujourd'hui tu rapportes tant de poissons ?»« Eh ben, je vais te dire, ma femme. » J'ai pris un gros poisson rouge qui me dit que si je laissais retourner dans la rivière, je prendrais chaque jour tout le poisson que je voudrais. Sa femme lui dit « Demain, tu y retourneras et si tu le prends, tu me l'apporteras. Je veux le manger. » Le pêcheur s'en va à la pêche avec son filet sur le cou. Il le jette dans la rivière et prend de nouveau le poisson rouge. Et le poisson lui dit
« Pêcheur, ô bon pêcheur, laisse-moi rentrer dans la rivière et tu prendras chaque jour tout le poisson que tu voudras. »
« Ah, je ne peux pas te laisser aller, car ma femme m'a dit qu'elle voulait te manger. »
« Quand ta femme m'aura mangé, à minuit elle accouchera de 3 beaux garçons. Ta jument, qui est à l'écurie, fera aussi 3 beaux poulains. Et ta chienne fera 3 beaux petits chiens. Ces 3 chiens, tu les nommeras Vite comme le vent, Passe-partout et Brise-fer. Tu diras à ta femme qu'elle conserve mes arêtes et qu'elle les place sur la cheminée, dans une conserve avec de l'eau. Quand l'eau deviendra rouge, il arrivera des choses extraordinaires à un des enfants. »
Minuit arrive. La femme fait 3 beaux garçons, la jument fait 3 jolis poulains et la chienne fait 3 beaux petits chiens. Quand les enfants furent grands, l'aîné demanda à partir. L'eau de la conserve devint rouge. Le garçon prend son cheval, son chien, une arête de la conserve pour lui servir de dard. Il arrive dans un pays où tout le monde était en deuil. Il demande pourquoi, tous les gens étaient tristes. L'autre lui répond « Il y a une bête à 7 têtes qui effraie tout le pays. Cette année, il faut donner une fille qui sera mangée par la bête. Et cette année, le sort est tombé sur la fille du roi. » « Et alors, personne n'a essayé de la tuer, la bête ?»« Eh si, mais nul n'y est arrivé. » Le lendemain, on va accompagner la fille du roi à l'entrée de la grotte. Le jeune homme prit son cheval et son chien et s'en alla à la grotte. Il y trouva la fille du roi. Il lui demanda où elle allait. Elle lui dit qu'elle allait être mangée par la bête à 7 têtes.
« Montez derrière moi sur mon cheval. Je vais aller tuer la bête. »«
Oh non, brave chevalier, vous seriez dévoré comme moi. »«
Ne craignez rien, je me charge de la détruire. »
La fille du roi monte en croupe derrière le cavalier, la porte de la grotte s'ouvre, le chien se lance sur la bête, le cavalier prend son dard et lui coupe une tête. La bête lui dit « Je suis plus forte que jamais, tu m'as coupé une tête, mais il m'en reste 6 !» Le chien s'élance sur la bête, le cavalier prend son dard et lui coupe une autre tête. « Je suis plus forte que jamais, tu m'as coupé 2 têtes, mais il m'en reste 5 !» Le chien s'élance sur la bête 4 fois de suite, le cavalier de même avec son dard lui coupe 4 têtes. Il ne lui en restait plus qu'une. « Je suis plus forte que jamais. Je te mangerai, toi, la fille du roi, ton cheval et ton chien. » Le chien se lance sur la bête. Le cavalier prend son dard, lui coupe la dernière tête et la bête tombe. Le cavalier coupe alors les 7 langues des têtes et les serre dans le mouchoir de la fille du roi qui lui dit qu'elle n'a rien à lui offrir, qu'elle m'aime, s'il la veut prendre en mariage. Le cavalier lui dit qu'il a un voyage à faire, qui durera 1 an et 1 jour, et qu'à son retour, il lui tiendra parole. Puis il s'en va sans rien dire à personne de ce qui venait d'arriver. La fille du roi remonte par le petit bois pour retourner au château de son père. Elle trouve 3 charbonniers qui faisaient du charbon dans le bois.
« Comment se fait-il que vous n'ayez point été mangé par la bête à 7 têtes ? Qui vous a sauvé la vie ?»«
Oh, un jeune cavalier, avec son cheval et son chien, qui a tué la bête. »
Eh bien, si vous ne dites pas que c'est moi, le fils du charbonnier qui ai tué la bête, je vous coupe la tête avec mon hachereau sur ce tronc d'arbre.
Alors il prend la fille et lui fait indiquer où sont les têtes de la bête. Ils prennent un sac vide de charbon et les mettent les têtes dedans. Père, oncle et fils montent avec la fille au Louvre du roi. Quelle surprise ce fut pour tout le monde de voir la fille en vie. Il fallut qu'elle dise à son père que c'était le charbonnier qui avait tué la bête à sept têtes. Toute la ville fut réjouie. Le roi, en reconnaissance, fit venir le charbonnier dans son palais et lui donna sa fille en mariage. La fille dit qu'elle ne pouvait pas encore épouser le charbonnier parce que il était trop noir.
Il faut acheter pour 100 francs de savon et le faire savonner tous les jours.
Les domestiques et les servantes savonnaient le charbonnier tous les jours. Au bout de 6 mois, le savon fut épuisé. Le père dit à sa fille, « Bah maintenant, il faut l'épouser !»«
Mon père, il en faut encore acheter pour 100 francs. Je ne le trouve pas assez blanc. »
On acheta de nouveau 100 francs de savon et on recommença à savonner le charbonnier tous les jours. L'année achevée, le cavalier revient chez le même hôte et voyant la ville en réjouissance, il demande à l'hôte « Pourquoi ?»«
Vous ne savez donc pas que le roi marie 20 filles pour faire honneur à la princesse qui se marie avec le charbonnier qui tua la bête à 7 têtes ?»
Le cavalier ne dit rien. Il met une lettre à la gueule de son chien. À l'heure du déjeuner, le chien avec sa patte va frapper le pied de la princesse. Tout le monde s'écrie
« Quel joli chien, quel joli chien !»
Le chien ouvre la gueule, la princesse prend la lettre et ne dit rien à personne, parce qu'elle avait reconnu le chien. Le chien saute sur la table, prend un perdreau rôti et se sauve par la fenêtre. Le roi, en voyant l'adresse de ce chien, dit
« Si demain il revient, il faudra le prendre pour savoir à qui il appartient. »
Le lendemain, le chien revient, à la même heure, saute sur la table, prend un poisson et s'en va sans qu'on puisse l'arrêter. Le roi demande « À qui est ce chien ?» On lui répond qu'il est chez l'hôte de la ville. Le roi envoie chercher le maître du chien. Le maître du chien fait répondre qu'il n'a point besoin de roi, que si le roi a quelque chose à lui dire, eh bien qu'il vienne le trouver. Le roi en colère envoie un escadron pour prendre ce cavalier. La princesse lui dit
« Mon père, si vous voulez que je vous accompagne, nous irons voir quel est ce cavalier. »
Le roi lui dit qu'il n'a point à se soumettre aux ordres d'un vassal ou d'un étranger que personne ne connaît. L'escadron arrive devant la porte et demande à l'hôte où est celui qui n'a pas voulu se rendre aux ordres du roi, et que s'il ne veut pas venir de bon gré, on va le prendre, l'attacher et l'emmener par force. Le cavalier monte à cheval et d'un coup de dard tue tous les hommes de l'escadron, sauf un, pour qu'il aille dire au roi que si le roi a quelque chose à me dire, qu'il vienne me trouver. Le roi était peiné de voir qu'on lui avait tué son escadron. Sa femme et sa fille lui dirent de monter à cheval et d'aller voir le cavalier. Il y alla. À la vue de cet homme, le roi le salua, l'invita à venir déjeuner avec lui. Il fit prendre son cheval et son chien, dont le roi n'avait vu de la vie aucun de pareil. Le mariage du charbonnier avec la princesse devait se faire le lendemain. Au déjeuner, le roi dit au cavalier que c'était parce que le charbonnier avait tué la bête à 7 têtes. Le cavalier demanda qu'il lui fît voir les têtes. Il dit qu'elles étaient sous l'escalier dans un sac de charbonnier. On apporta les têtes. Le cavalier dit de voir si les langues étaient dans les gueules. Il n'en avait aucune. Alors il sortit le mouchoir où était broté le nom de la princesse et les 7 langues se trouvèrent dedans. Il demanda à la princesse quel était celui qui avait tué la bête à 7 têtes. La princesse dit au roi que c'était le cavalier qui avait tué la bête avec son cheval son chien et son dard, et que le charbonnier l'avait menacé de lui couper la tête sur un tronc d'arbre si elle ne disait pas que c'était lui qui avait tué la bête. Alors le roi dit que la princesse se marierait avec le cavalier. Les charbonniers allèrent faire du charbon dans un bois beaucoup plus loin. Le lendemain, la princesse et le cavalier se marièrent. Et donc l'histoire pourrait se terminer ici. Et comme dans Les Deux Frères, il va y avoir un rebondissement pour faire justement réapparaître le jumeau ou les deux autres triplés. Le soir, en entrant dans la chambre, le cavalier voit une grande clarté. Il demande à sa femme « Ce que c'est ?» Elle lui dit que c'est un château habité par de vieilles fées. Aussitôt, il sort de la chambre, prend son dard, son cheval et son chien et va à ce château. Il ouvre la porte, voit une vieille femme dont les cheveux traînaient jusqu'à terre. La vieille lui dit « Retenez votre chien qui me mangerait !»«
Je n'ai point de corde pour l'attacher. »«
Eh bien, prenez un de mes cheveux !» Il lui en arracha un et sur le champ, il est métamorphosé. La princesse attendait son mari. Tout le monde se mit à le chercher. On ne trouva ni le cavalier, ni le cheval, ni le dard, ni le chien. Et la conserve de redevint rouge. Le second frère demanda à partir. Il prit son dard, son cheval, son chien, qui ressemblait exactement à ceux de son frère, et passa devant le Louvre du roi. La princesse lui dit
« Où avez-vous donc passé la nuit ?»
Il pensa qu'on le prenait pour son frère. Il ne dit rien, pour mieux savoir ce qui se passait, et comprit que son frère avait épousé la princesse. La princesse le fit monter à la chambre. En entrant, il vit une grande clarté. Et comme son frère, il alla au château des fées, et la vieille le métamorphosa de même. La conserve redevint rouge. Le plus jeune des frères demanda à partir. Il prit son cheval, son chien, son dard, et passa devant le Louvre du roi, où il trouva la princesse, qui le fit monter à la chambre comme ses frères. Et il demanda « Quelle est cette grande clarté ?»«
C'est un château habité par de vieilles fées. »
Aussitôt, il sort de la chambre, prend son dard, son cheval, son chien, va frapper à la porte. La vieille lui dit «
Oh, retenez votre chien qui me mangerait !»
Alors il cria à son chien
« Brise-fer, passe-partout, crève-tout !»
Et il le lança sur la vieille. Les chiens lui sautent au cou et l'étranglent. Puis il prit la conserve et en jeta l'eau sur ses frères, qui reprirent leur forme immédiatement. Ils remontèrent sur leurs chevaux et retournèrent au Louvre du roi. La princesse demanda lequel des trois était son mari. L'aîné lui dit que c'était lui, que les autres étaient ses frères. Et tout le monde jeta des cris de joie. Et cette musique était pour introduire un des 16 contes du monde arabe de Jean Musy, intitulé « L'aventure de Khalil ». Khalil habitait Bagdad. C'était un homme pauvre, tourmenté. Il était sans cesse harcelé par des bandes d'enfants de la ville. Dès qu'il l'apercevait, il le poursuivait en lui lançant des pierres. À bout de force, il ramassa un tout petit caillou et le montra aux enfants.
« Jetez-moi des cailloux de cette taille. Ne me lancez plus de grosses pierres, car vous finirez par me blesser gravement. Si vous continuez, j'aurai les jambes si meurtries que je ne pourrai plus faire ma prière qu'assis. »
Ils se moquèrent de lui et persistèrent. Un matin, Khalil fut touché en plein crâne par une grosse pierre. Il tomba sur le sol où il resta longtemps inanimé. Ayant repris ses esprits, il décida de quitter Bagdad pour échapper à la cruauté de ses enfants. Le crâne tuméfié, il prit la direction du Bassora, une ville située au sud-est de l'Irak, non loin du golfe Persique, et marcha longtemps malgré sa douleur. Dès que le jour fut tombé, il s'écarta légèrement du chemin pour trouver un endroit tranquille où dormir. Il s'installa sous un palmier, mangea quelques dattes. Or, à cet endroit, justement, gisait sur le sol le corps d'un homme assassiné. La nuit était sans lune et Khalil ne le vit pas. Il s'allongea non loin et s'endormit. À l'aube, arrivèrent des bédouins montés sur leurs chameaux. Ils aperçurent Khalil qui venait de s'éveiller et se trouvait debout près du corps inanimé. Intrigués, ils s'approchèrent. Les vêtements de Khalil étaient tachés du sang provenant de sa blessure à la tête causée par la grosse pierre lancée par les enfants. Mais les bédouins refusèrent d'y croire et déclarèrent que sa tunique maculée de rouge prouvait sa culpabilité. « Chien !» lui dirent-ils avec colère. « Nul ne te connaît ici. D'où viens-tu donc ?»«
De Bagdad. » Surpris par la nuit, j'ai dormi sous ce palmier, sans savoir qu'un cadavre s'y trouvait.
Tu es venu de Bagdad pour commettre un crime, et tu as profité de l'obscurité pour exécuter ton projet.
Les Bédouins se saisirent alors de Khalil, et malgré ses protestations, lui lièrent solidement les mains, le traînèrent jusqu'à Bagdad, où ils le remirent aux autorités. Dans sa prison, Khalil se disait angoissé.
« Que vais-je devenir ? J'ai fui les pierres des enfants et me voici accusé d'un meurtre. Si j'avais su me résigner et accepter mon sort, je n'aurais rien à craindre aujourd'hui. »
Informé de cette affaire, le roi condamna Khalil à la pendaison. Le malheureux fut immédiatement conduit au pied du gibet. Lorsque le bourreau s'approcha pour lui passer la corde au cou, Khalil murmura quelques paroles en regardant le ciel.
Alors, tel un forcené, un homme surgit de la foule qui entourait la potence. « Ce condamné est innocent. Je suis l'assassin. Je ne puis le laisser prendre à ma place. Mes épaules sont trop faibles pour supporter le sang de deux victimes. »
Tous deux furent conduits chez le roi, qui les interrogea longuement avec l'aide de son grand vizir. Khalil raconta son aventure. Et le roi ordonna qu'on pendît rapidement le vrai coupable.
Majesté, garde-toi de verser le sang de ce jeune homme. Malgré sa faute, il a su faire preuve de générosité. Il s'est livré spontanément. Pour sauver ma vie, il a sacrifié la sienne. Comment oser le pendre ?
Le roi fit alors appeler les parents de la victime. « Selon la loi, leur dit-il, le meurtrier doit être pendu. C'est le prix de la mort de votre fils. Mais toujours selon notre loi, il existe une autre solution. Le crime peut être racheté. Je vous demande donc de ne pas exiger la pendaison du meurtrier qui a su se repentir. Laure finit par arranger l'affaire et les parents quittèrent le palais sans trop protester. Le roi questionna alors les deux hommes. « Que s'est-il passé ? » demanda-t-il au meurtrier. « Pour que tu te décides à reconnaître ton crime alors que le bourreau s'apprêtait à pendre, Khalil ?»«
J'aperçus soudain un dragon fulminant. Des flammes énormes sortaient de sa gueule ouverte et de ses narines s'échappait une épaisse fumée. C'était terrifiant. » Cours dire la vérité, sinon je te dévorerai et tu demeureras à jamais prisonnier de mes entrailles, où tu brûleras éternellement. »
Effrayée par cette vision, je me précipitai vers le bourreau pour avouer mon crime. « Et toi ?» demanda le sultan en se tournant vers Khalil. « Qu'as-tu fait sous le gibet ?»
Voyant arriver la mort, je levai la tête vers le ciel en disant « Ma vie t'appartient ». À peine avais-je prononcé ces paroles que le jeune homme cria et me sauva de la pendaison en dévoilant la vérité.
Et voilà comment se finit cette histoire. Et est-ce que on rajoute quelque chose sur les dragons ?
Hein ? Oui, quoi ? Comment tu aperçois les dragons dans les contes, toi ? Comment tu les rencontres ?
Eh bien, ils ne sont pas pareils s'ils sont de l'Occident ou en Asie. En Asie, ils sont plutôt gentils. Et en Occident, ils sont plutôt terrifiants, comme là, ils sortent de la...
Crachent
du feu par les narines, par la gueule.
Oui, c'est vrai qu'en Orient, ils sont très liés à... Ils gardent un peu le cosmos, ils sont très liés à l'eau, aux éléments. Il y a des très beaux contes là-dessus.
Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, pour vous, le dragon, il est terrifiant où il est plutôt conciliant, aquatique. Eh bien, nous attendons avec impatience vos commentaires et à très bientôt, à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine. Et merci Léa d'être avec nous.
Merci
Yann.
D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur, ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le monde doit s'enivrer de discours, pas de vin.
rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Combien d'hommes disparus qui un jour ont dit non, dans la mort propice, leurs corps s'évanouissent. On ne se souvient ni de leurs yeux ni de leurs noms. Leurs mots qui demeurent chantent juste à l'heure. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce soir avec vous, j'ai enfreint la règle du jeu. J'ai enfreint la règle des moineaux, des aigles. Vous avez très peur pour moi, car vous savez que je risque vos murmures, vos tomates mûres. Ma chanson a dit la vérité, vous allez m'exécuter. Ma chanson a dit la vérité, vous allez m'exécuter.